7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Aujourd'hui, il est question de ces enfants et de ces adolescents qui ne veulent plus aller à l'école. C'est une sorte de burn-out de l'élève, appelée aussi phobie scolaire. Une incapacité un matin à se lever pour aller en classe, au collège, au lycée. L'éducation nationale en France englobe ses élèves parmi les décrocheurs scolaires. Et les parents sont totalement désemparés à une époque où la réussite scolaire est la clé de la vie et de la place en société. Quel type d'élèves sont concernés? Pourquoi? L'école a-t-elle une responsabilité? Nous en allons en parler avec notre invité. Bonjour Laëlia Benoît.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, chercheuse à la Maison des adolescents à Paris et à l'INSERM, et vous êtes en train d'écrire une thèse en partie sociologique, pas que médicale, sur la phobie scolaire. Et quant à vous, les voisins et les voisines, si vous êtes parents, enseignants ou vous-même lycéens, appelez-nous si vous nous souhaitez mieux comprendre comment on peut en arriver à fuir l'école ou si vous êtes dans cette situation et à quel point on peut en être malheureux. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp, donc gratuit. Et bien sûr, vous nous écrivez aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et puis en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, comment grandir sans ses parents? Mais tout de suite, la phobie scolaire, elle touche une minorité d'élèves, bien sûr, mais dans tous les pays du monde, y compris sur des continents où elle n'est pas reconnue en tant que telle. Vos témoignages postés sur WhatsApp et surtout vos appels en direct, où que vous soyez dans le monde.
Bonjour, je m'appelle Jordan, je suis un étudiant camerounais. Lorsque j'étais en classe de 6e, les tracasseries des camarades de classe m'empêchaient réellement de prendre confiance en moi et faisaient naître en moi un sentiment d'infériorité, un sentiment de peur, de panique, d'anxiété. Et ça m'empêchait réellement tout le temps de me rendre dans les cours parce que je me disais toujours qu'il y avait ces camarades qui allaient m'embêter. Je me disais toujours que je devais rencontrer les mêmes personnes qui allaient me taquiner, me perturber et m'empêcher réellement de m'épanouir dans la salle de classe. Et c'était difficile dès mes débuts. Et non seulement cela, il y a aussi eu la peur de prendre conscience de mes réelles difficultés, l'intimidation par rapport à tous les autres élèves qui étaient extravertis. Moi, j'étais plutôt déjà timide. Je n'arrivais pas réellement à m'ouvrir et à exprimer ce que je ressentais au plus profond de moi. Et tous ces aspects-là me faisaient observer le milieu scolaire comme étant un centre de détention pour les mineurs, comme un centre de réinsertion sociale. Mais grâce au soutien des professeurs, grâce au soutien de certains camarades, je dois bien dire aujourd'hui que la phobie scolaire fait partie de mon passé. Merci.
Voilà, le témoignage de Jordan, la phobie scolaire fait partie de mon passé. Enfin, il parle d'une époque où il associait l'école à un centre de détention pour les mineurs.
Oui, alors ça arrive encore à l'heure actuelle que certains enfants en viennent à s'en prendre à d'autres et que finalement, aller à l'école, ça devienne un cauchemar puisque tous les jours, on a peur de retrouver ceux qui nous agacent. Donc, on voit que pour lui, ça l'a beaucoup gêné dans sa construction avec les autres, hein, se sentir bien, se sentir à l'aise. Et que ça lui a mis du temps de remonter la pente.
Mais tout de suite, écoutez aussi le témoignage d'Amandine en France. Elle a 17 ans, elle est actuellement en terminale dans un lycée de Seine-et-Marne où elle vit depuis toujours. Et elle a raconté au micro d'Alice Milo sa scolarité qui n'a pas été un long fleuve tranquille.
Arrivée en seconde, j'ai eu des souvenirs de mon arrivée en 6e, donc c'est quand même une longue histoire. Arrivée en 6e, je me suis mise dans la classe de ma meilleure amie. Pseudo meilleure amie, puisqu'elle a commencé à me harceler physiquement et moralement. Donc ça s'est passé pendant à peu près tout le collège. Du coup, en arrivant en seconde, je me suis dit zut, est-ce que ça va recommencer? Puis il y a eu la rentrée, ça a fini par passer. Et puis en fait, tous les jours, au bout de quelques semaines, j'étais stressée, j'envoyais des messages à ma mère disant que ça allait pas, que je pouvais pas tenir, que j'avais mal au ventre, que je me sentais pas bien. Et le 22 mars, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, en fait, tout ce que j'avais gardé, j'ai explosé. Il était 7h55, le cours a commencé et j'avais très 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 mal au ventre. J'avais des bruits, gargouillements, comme quand on a faim, mais c'est pas vraiment la même chose, c'est vraiment les gargouillements de stress. Et j'ai commencé à trembler, à transpirer, à pleurer. J'ai vu l'infirmière et j'ai dit, je veux rentrer à la maison, là je peux pas. Du coup, ma mère est venue me chercher et je dis je veux pas y retourner. Donc j'ai été déscolarisée, j'ai vu mon médecin. Alors je sais plus s'il a employé le mot de phobie scolaire, mais il m'a dit que j'avais peur de retourner au lycée. Et je le savais inconsciemment, mais j'ai enfin mis le mot dessus, vraiment. 22 mars, je me suis dit ok, je suis malade quoi. On nous met toujours la pression. Arrivé en troisième, il y a le brevet, faut choisir votre métier. Oh, vous n'avez pas d'idée de métier, mon Dieu, c'est n'importe quoi, comment vous allez faire? J'ai un souvenir d'une prof au collège qui nous disait, vous allez finir SDF. Et arrivé en seconde, c'est il y a le bac. C'est logique d'avoir des contrôles, d'être évalué. Mais ce que je pourrais mettre en avant comme problème, c'est par exemple les horaires. C'est le cours commence à 7h55, on peut finir à 17h. Donc ceux qui habitent à côté du lycée, il n'y a pas de problème. Moi, j'habite à 15 minutes du lycée, mais le bus met une heure de trajet le matin, qui vient me charger à 6h50, 6h40.
Parce qu'il faut voir qu'ici, vous habitez vraiment en pleine campagne, hein, donc il y a un bus de ramassage scolaire, mais il faut qu'il passe par toutes les maisons, de tous les petits chemins au milieu des champs, c'est ça?
C'est exactement ça, et du coup, bah, on essaye de dormir le matin dans le bus, il y a tout le monde qui s'allonge dans les places parce qu'on est exténué, quoi. Et surtout que quand on rentre du lycée, c'est pas fini, quoi, on a les devoirs. Et les professeurs, ils nous disent « Non, il faut dormir 10 heures par nuit ». Alors le calcul, si je dors 10 heures par nuit, qu'il faut que je prenne mon bus à 6h40, 6h50, et qu'il faut que je fasse mes devoirs, que je mange, que j'essaye quand même de me faire une petite pause de 5 minutes, que j'aille prendre ma douche, faire mon sac, bon bah en fait il n'y a pas de temps libre. C'est au début, on a juste peur au moment où on arrive devant la grille, mais plus ça va, plus on recule. Et c'est au moment d'aller se coucher, c'est au moment de s'habiller, de mettre les chaussures, d'attendre le bus. Là, on en devient vraiment malade, on est toujours dans l'anticipation et c'est plus possible. Et cette phobie scolaire, elle dérape, c'est-à-dire que je pouvais plus sortir de chez moi. J'ai engendré aussi une phobie sociale. J'étais au restaurant, je faisais des crises d'angoisse avec mes parents alors que j'avais pas de quoi être stressée. C'est comme une gigantesque glace et qui coule, qui se répand partout, quoi. Moi, on m'a toujours appris dans ma famille, c'est on se pousse jusqu'à tomber, quoi. C'est on lâche pas prise.
Donc vous êtes déscolarisée à partir du mois de mars, jusqu'à la rentrée suivante.
C'est ça.
Comment vous l'annoncez à votre établissement scolaire?
Je l'ai annoncé par l'infirmière. J'ai la chance d'avoir un établissement scolaire juste génialissime. C'est-à-dire que l'infirmière, elle m'a littéralement sauvé la vie. En fait, elle m'a dit, mais tu sais, t'es pas toute seule. Et en fait, on est plusieurs dans mon établissement. J'en connais deux ou trois qui sont aussi déscolarisés comme moi pour phobie scolaire. Et elle m'a dit, bah écoute, c'est pas grave, repose-toi. Si t'as envie de revenir, bah voilà, tu viens une demi-heure, une heure et tu repars chez toi. Te force pas, Amandine, fais à ton rythme. Ça a été très dur au début. C'est-à-dire que mon médecin m'a dit, tu vas voir, tu vas être très fatiguée. Et moi, je le croyais pas. Je dis, bah non, enfin, justement, je fais plus rien. Donc... Et en fait... Ah, il y a tout qui m'est tombé dessus, donc les deux premières semaines, je dormais. J'étais un zombie. Je me demandais même à quoi ça allait me servir de vivre, quoi. Pourquoi continuer si je suis malade, enfin, si je peux pas réaliser mes rêves, parce que j'adore apprendre. Et j'en pleurais, parce que je pouvais pas retourner au lycée, alors que j'adore apprendre, j'adore lire, j'adore échanger. Et là, bah, j'étais coupée de tout lien social, et au début, j'avais interdiction de toucher à mes devoirs. C'est-à-dire que mes amis m'amenaient les devoirs, et c'était ma mère qui les récupérait, mon médecin ne voulait pas que j'y touche. Dès que je voyais un manuel, mais je commençais à stresser, c'était impossible. Et en fait, j'ai fini par reprendre doucement et j'ai toujours eu un très bon niveau, c'est-à-dire que bah, je m'en sortais avec mes propres connaissances. Je suis un peu autodidacte, donc je m'en sortais et au final, quand je suis revenue, on m'a quand même validée, on m'a dit « Ok, bah, tu passes en première ». J'ai pas tant travaillé que ça, j'ai essayé de relire un petit peu les cours, mais pas plus que ça, mais juste en échangeant avec mes parents, en parlant avec des amis qui étaient en cours. Bah, je retenais et puis les professeurs et l'établissement savaient que j'étais une bosseuse, donc que j'allais rattraper mon retard. Du coup, ils m'ont laissé passer. Puis à la rentrée de première, ça s'est très bien passé, jusqu'au moment où on a dit « bon bah la semaine prochaine, contrôle ». J'ai pas réussi et là, l'établissement encore est intervenu en m'aidant. Et ils m'ont dit « bon bah, tes contrôles déjà, tu vas pas les faire en classe. T'as une salle pour toi, quand t'as contrôle, tu viens nous voir ». Et on t'ouvre la salle, t'es toute seule dans la salle, tu fais ton contrôle toute seule, on te fait confiance. Et on a mis en place aussi un tiers temps.
Donc vous avez un tiers de plus de temps que les autres élèves.
C'est ça, donc si j'ai 3 heures de contrôle, j'ai 4 heures. Du coup, on a aussi mis en place un emploi du temps aménagé, c'est-à-dire que je choisissais les horaires que je voulais faire chaque jour et les cours auxquels je voulais assister pour commencer... Quand on est vraiment pas bien, on choisit les cours dans lesquels on se sent le mieux pour essayer de réintégrer le lycée doucement.
Aujourd'hui, vous êtes en terminale et ça va mieux.
Ça va mieux, mais ça dépend vraiment des jours, ça dépend... Là, on approche du bac. et c'est vraiment de plus en plus dur, quoi.
Lélia Benoît, vous êtes pédopsychiatre, enfin psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Que vous évoque l'histoire d'Amandine ? Est-ce qu'elle correspond à ce que vivent pas mal d'adolescents aujourd'hui ?
Oui, tout à fait, pas mal d'adolescents qu'on rencontre. Et elle signale plusieurs choses en fait, qui l'ont gênée. Hein. Ce qui est intéressant justement avec l'histoire d'Amandine, c'est qu'on voit que la phobie scolaire, c'est pas uniquement un certain type de problème, ça peut être plusieurs problèmes qui s'accumulent au fil du temps et qui, en s'accumulant, vont aussi la fragiliser, elle, durablement. On voit que même quand elle veut reprendre, il reste quand même des petites difficultés et il faut rester attentif. Donc effectivement, elle parle du harcèlement avec son amie au début, ensuite de l'école qui devient un lieu associé à de la souffrance, hein. C'est comme un traumatisme, on devient petit à petit allergique à l'école.
Ce que nous disait aussi notre auditeur Jordan tout à l'heure, également, hein, avec son message sur WhatsApp. Mais quelle est aujourd'hui l'ampleur du phénomène ? Est-ce que le phénomène est en croissance ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'enfants, d'adolescents qui ont ce rejet de l'école ?
Tout à fait. Alors, on considère que le phénomène est en croissance, on en parle de plus en plus, les enseignants en parlent de plus en plus, l'école aussi, les parents se mobilisent pour en parler. C'est un phénomène social, en tout cas, dont on parle. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant des enfants qui souffrent à l'école, ou est-ce qu'on les repère plus tôt, on en parle plus facilement et ce n'est plus un sujet tabou ? C'est une autre question.
Cela concerne des enfants de quel âge en général ?
Alors, ça peut être soit des petits-enfants depuis l'école primaire, soit au collège et même jusqu'au lycée, en fait.
Est-ce que vous pouvez nous définir la phobie scolaire ? Parce qu'on parle de phobie scolaire en France, mais ce ne sont pas les mêmes termes dans le monde anglo-saxon. L'éducation nationale ne reconnaît pas cette expression. Elle parle de décrochage scolaire. Vous avez étudié aussi les cas du Japon. Alors, quel est ce trouble ?
Alors justement, le mot qu'on choisit pour en parler dit beaucoup de choses sur ce qu'on pense. Hein. La phobie scolaire, ça veut dire que c'est un enfant qui a peur de l'école de manière déraisonnable et qui ne réussit pas du tout à y aller. Les Britanniques, par exemple, parlent plus de refus scolaire. C'est-à-dire, ils disent l'enfant refuse d'aller à l'école. On voit bien que peut-être il en a peur, peut-être qu'il ne veut pas. C'est une autre manière de voir les choses.
Donc, ils n'utilisent pas de terme médical.
Tout à fait. Ils parlent du comportement de l'enfant. Ils disent, on ne sait pas pour quelle raison, mais cet enfant ne veut plus aller à l'école. Et donc, dedans, ils mettent les enfants qui ont peur d'aller à l'école, mais ils mettent aussi des enfants qui, par exemple, ne veulent pas y aller parce qu'ils s'ennuient. Voilà.
Et dans d'autres pays ?
Alors, dans d'autres pays, par exemple le Japon, hein, c'est un pays qui est particulièrement marquant pour la phobie scolaire parce qu'ils s'y sont intéressés assez tôt, dès les années 60-70, alors qu'en France, on n'en parlait pas du tout à ce moment-là. Alors, probablement parce que le Japon a une société qui est quand même assez rigide, avec beaucoup de codes, d'autorité par rapport aux enfants, hein, d'autodiscipline. Et donc, les Japonais ont commencé à décrire comme ça des enfants qui refusaient d'aller à l'école et à se demander est-ce que c'était la pression. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que les premiers travaux médicaux là-dessus se disaient mais est-ce qu'ils ont un problème physique ? Alors, ils faisaient des prises de sang, ils leur faisaient des images, ils essayaient de voir quelle est la maladie de ces enfants. Et bon, à l'heure actuelle, ils se posent beaucoup plus la question quand même de la pression sociale de réussite.
La phobie scolaire n'est pas une maladie, d'ailleurs elle n'est pas reconnue en tant que telle en France non plus. On a longtemps parlé d'école buissonnière. Est-ce que c'est une confusion qu'il ne faut pas commettre aujourd'hui ?
Alors, effectivement, les gens qui ont parlé de phobie scolaire et de refus scolaire, d'emblée, on dit ces enfants sont différents de ceux qui font l'école buissonnière. Ils ne veulent pas quitter...
C'est pas un caprice.
Non, c'est pas un caprice, c'est pas un refus de l'école délibéré, c'est simplement, ils n'y arrivent pas. Donc, on distingue effectivement la phobie scolaire de l'école buissonnière. Après, ça pose la question de qu'est-ce qu'on attribue comme intention à l'enfant ? Est-ce qu'on est capable de voir que vraiment il n'arrive pas ? Ou est-ce qu'on se dit non, il fait exprès, il veut esquiver ?
Dans le cas d'Amandine, c'est une élève qui le dit, elle est plutôt bonne élève et elle aime apprendre. Donc on peut être en rejet de l'école sans être en refus d'apprendre.
Tout à fait, il y a beaucoup d'adolescents, d'enfants qui ont envie de continuer à apprendre et qui continuent à apprendre par d'autres moyens. Soit en ayant des cours un peu individualisés, soit en travaillant à la maison, et qui passent d'ailleurs leur diplôme, mais l'école habituelle, ils ne la supportent plus.
Mais alors quel est ce profil d'élève qui se retrouve dans ce rejet de l'école ?
Alors, c'est des profils qui sont très variables, avec énormément de facteurs différents. On parlait de la pression, du harcèlement. Il y a des profils d'élèves qui s'ennuient, en fait, hein, qui sont un petit peu en avance sur les cours, qui n'y arrivent plus, enfin, qui s'ennuient, qui ne voient pas l'intérêt d'y aller.
Vous pensez, par exemple, aux enfants surdoués?
Voilà, aux enfants surdoués, enfin, qu'on dit surdoués ou qu'on dit précoces, qui... En tout cas, est-ce qu'ils sont plus intelligents ou pas? Bon, c'est un débat, mais en tout cas, ils sont en avance sur le programme et ils s'ennuient en classe. Ils aimeraient bien faire autre chose et c'est difficile pour eux de supporter finalement l'éducation, la pédagogie telle qu'elle est proposée à l'heure actuelle, qui est une pédagogie de l'école républicaine où tout le monde est à la même place et suit le même programme.
Oui, mais enfin un peu partout dans le monde, hein, ceci dit.
Tout à fait.
On est quand même dans un système d'école collective. Il ne faut pas oublier qu'autrefois, il y a encore quelques siècles, dans un pays comme la France, en Europe, l'enfant apprenait à la maison. Enfin, celui qui avait la chance d'apprendre et qui naissait dans une famille nantie, il apprenait à la maison tout seul avec un répétiteur.
Tout à fait. Et les autres n'apprenaient pas. Donc, c'était quand même une réussite de réussir à faire une école de la République pour tous. Là, on arrive à des moments où, finalement, certains parents, certains enfants en viennent à dire « Oui, mais à l'heure actuelle, ça ne nous correspond plus. » Il y a une volonté d'individualisation de la pédagogie qui... Alors que dans une certaine manière, les enseignants essayent de suivre. Hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui font l'effort d'essayer d'adapter leur programme, mais ils sont peu nombreux. Il faudrait des moyens différents pour pouvoir individualiser la pédagogie de chaque enfant.
Alors, on va parler effectivement de cette école et des familles qui sont désemparées, mais pour revenir sur les profils, vous avez cité ces enfants qui sont sous le coup qui subissent du harcèlement scolaire, des enfants qui sont en avance sur le programme et donc qui s'ennuient. Mm-hmm. Vous m'avez dit d'ailleurs, pendant qu'on écoutait le témoignage d'Amandine, mm-hmm. Ce sont souvent des bons élèves.
Oui, alors ce sont souvent des bons élèves. Ça, c'est une vraie question sociologique. Oui,
donc ils réussissent, ils n'ont pas de problème de confiance.
Alors,
en eux.
Oui, ou au même temps, est-ce que peut-être des mauvais élèves ne peuvent pas aussi avoir peur de l'école? Mais finalement, eux, on va peut-être dire qu'ils décrochent. Vous voyez, il y a une distinction qui se fait entre est-ce que l'enfant est en décrochage, c'est-à-dire de toute manière, il n'allait pas réussir l'école, ou est-ce qu'il avait tout pour réussir et finalement, ça se passe mal. En faisant des enquêtes auprès des enseignants, il y en a plusieurs qui disent, mais parmi les élèves qui sont orientés dans des filières professionnelles, qui ne leur correspondent pas, etc., on pense qu'il y en a qui sont très très mal en classe, qui le supportent très très mal, mais comme ils ne sont pas bons élèves, on ne va pas forcément s'intéresser de la même manière.
Est-ce qu'on peut repérer en amont les enfants qui présentent un risque de phobie scolaire?
Alors c'est très difficile. Après coup, les familles en parlent souvent en disant il y a eu des maux de ventre avant, enfin un petit peu comme elle décrit, hein, des difficultés à y aller. Donc si on regarde après coup, on aurait pu deviner. Mais si on pose la question à tous les enfants ou même aux enfants que nous étions, qui n'a pas eu mal au ventre avant un contrôle?
Ou du mal à se lever le matin parce qu'on a un peu trop regardé les écrans trop tard et qu'on n'a pas assez dormi.
Tout à fait. Ou envie de rester au lit plus longtemps. Ou un petit peu de peur la veille de la rentrée parce qu'on ne sait pas si on va retrouver les amis de l'année dernière. Mmh. Voilà, donc ces moments de peur, finalement, ils sont tellement communs que ce serait difficile de dire ça va prédire une phobie scolaire.
Quand les petits-enfants sont déposés le premier jour de l'école, souvent l'école maternelle, et qu'ils pleurent, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dans la séparation avec la mère et qui peut ensuite perdurer et créer un jour de la phobie scolaire?
Tout à fait. D'ailleurs, c'était la première hypothèse des psychiatres qui s'y sont intéressés à la phobie scolaire, hein, donc les Américains plutôt. Donc, eux parlaient de phobie scolaire et ils pensaient que c'était principalement une angoisse de séparation avec la mère. Donc, l'enfant a peur de quitter la mère, il est en détresse, il va très mal, et la mère, en retour, est très inquiète pour son enfant et a du mal à le laisser partir alors qu'il va aussi mal. Et donc, quelque chose, une sorte de cercle vicieux se met en place entre les parents et l'enfant. Donc, c'est un des profils possibles aussi. Alors, il a été un petit peu remis en question aussi par les parents qui disent, bon, on a beaucoup parlé de la mère, beaucoup de l'angoisse de séparation, beaucoup des parents, mais il faudrait parler un petit peu du harcèlement, de la pression, des écrans, d'autres choses aussi.
Oui.
Et donc, à l'heure actuelle, on essaye vraiment de...
Tout n'est pas à mettre sur le dos de la famille.
Voilà. Exactement.
Et on parle de la phobie scolaire avec vous, Lélia Benoît. Et bien sûr, vous nous appelez si vous souhaitez poser des questions à notre psychiatre de l'enfant et de l'adolescent ou si vous souhaitez témoigner que vous avez connu, que vous avez dans votre entourage des enfants, des adolescents qui ont ce rejet de l'école. 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp.
Être en couple, ça fait mal que quand il tient un rein. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as bu, je te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et puis rater sa vie, pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien.
Tout le monde rend fou, tout le monde est en guerre, plus on se rend flou, et moins on voit clair, quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit, y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui tapent à croix, combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue, mon papa me croit pas mais ça me sente le tabac froid, on se fait chier au taf, on attend les camps va, on se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien.
Ici non seulement ça rappe, mais quand y'a un gros semence, ça rappe. Il n'est pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. On est tous dans le même bateau, même ceux que l'on n'aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi, à part le matin d'une perquise. Pendant que ses copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui, je pense qu'à m'amuser, mais pour la coke, j'ai le nez de krill.
Hey, screw, 995,
on en a rien à foutre de rien.
C'est neuf que chez 7 milliards de voisins. Nous parlons éducation. Comme chaque vendredi, nous sommes en compagnie de Lélia Benoît, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. On parle des phobies scolaires, ce rejet massif de l'école. Les anglo-saxons, vous nous le disiez, Lélia Benoît, parlent de refus scolaire, quelles que soient les raisons, les origines, pas forcément la famille qui est en cause, le harcèlement à l'école, d'autres raisons. Ça peut être l'échec scolaire ou au contraire l'ennui à l'école. En tout cas, quand des enfants refusent d'aller à l'école, ça peut sembler insensé sur un continent où l'école ne va pas de soi comme en Afrique, mais pourtant des voisins nous appellent aussi pour nous parler du grand malheur qu'a représenté pour eux le fait d'aller à l'école et qui n'est pas forcément vécu comme une chance pour tout le monde. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à Jean-Luc qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Emmanuel.
Jean-Luc, vous avez à un moment donné dans votre parcours scolaire, aujourd'hui vous avez 30 ans, vous êtes adulte, mais vous avez un peu joué au malade imaginaire dans votre parcours scolaire.
Ah oui. Quand j'étais au cours privé, les châtiments corporels constituaient pour moi une peur bleue pour ne pas aller à l'école. Mais en effet, chaque matin, on était soumis à plusieurs exercices. Soit c'est la dictée, c'est les calculs, la grammaire ou bien la conjugaison. Et chaque réponse fausse correspondait à une sanction, soit c'est des coups de fouet sur le corps, soit c'est des coups de parmatoire dans la main, soit c'est des fessées avec un gros bâton. Et du coup, je fuyais souvent la classe et puis j'inventais une maladie imaginaire de peur de souffrir. C'était vraiment affreux et de vivre ça. Certains camarades ont dû abandonner même les classes à cause des charges corporelles. Au CM2, dans le temps, je me souviens, il y a un ami qui a carrément laissé aujourd'hui, il a pris la soudure.
Ah oui, il a pris la soudure, il a profité pour apprendre un métier et quitter l'école. Mais Jean-Luc, vous en parliez à vos familles, les uns et les autres?
Pour moi, je ne conçois pas les châtiments corporels parce que franchement, ça ne marche pas avec tout le monde.
Et que disaient les parents Que disaient les parents chez vous?
Non, pour eux, c'était normal parce que c'était normal, il faut châtier. Et quand on châtie, l'enfant prend mieux, c'était ça leur conception.
Lélia Benoît?
Alors, c'est des questions qui se sont posées aussi en Europe, hein, dans les années 60, quand l'éducation des parents a commencé à changer à la maison. On a commencé à dire que les châtiments corporels, c'était pas forcément une bonne méthode éducative. Il y a eu des questions sur la phobie scolaire. On s'est dit, est-ce que les jeunes commencent à avoir une phobie scolaire parce qu'il n'y a plus de châtiments corporels ? Donc, voilà, il pouvait y avoir cette idée que si on frappe les enfants, eh bien, ils seront plus obéissants. À l'heure actuelle, on sait que ça crée beaucoup de traumatismes, beaucoup de peur chez les enfants. Et on a des parents qui sont maintenant adultes, hein, des parents de jeunes qui ont une phobie scolaire, pour qui, chez eux, la difficulté de leur adolescent résonne énormément parce que eux ont connu une éducation à l'école très stricte et très rigide.
Et Jean-Luc, du coup, effectivement, ces châtiments corporels ont créé de la peur et de la phobie scolaire, pas seulement chez vous, si je comprends bien, chez une bonne partie de la classe à l'époque.
Ah oui, bien sûr, beaucoup avaient abandonné les classes. Certains fuyaient carrément, hein, certains fuyaient, et puis d'autres venaient sous la pression de leurs parents parce que leurs parents les obligeaient à venir en classe.
Merci Jean-Luc de nous avoir appelé parce que effectivement on peut comprendre que une raison extérieure à la famille et ce qui se passe à l'école déclenche l'anxiété extrême chez des enfants qui n'avaient pas de raison à la base de détester l'école, d'être en rejet, d'être en rupture scolaire. C'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Ça peut être avec les enseignants, ça peut être aussi avec les camarades, hein, comme pour le témoignage précédent. En tout cas, l'école devient associée à beaucoup de souffrances.
Alors là, évidemment, on ne se pose pas de questions sur la responsabilité de l'école. C'est assez clair. Osana nous appelle de Beboto au Tchad. Bonjour, Osana.
Bonjour, Manel Bastide. Bienvenue à Beboto.
Osana, merci de votre accueil. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est le numéro de téléphone du standard WhatsApp. C'est pour nous parler de votre petit frère de 7 ans. Il est au cours préparatoire,
oui,
je crois.
Oui, justement, j'ai un petit frère, notre Benjamin, qui est aux classes de CP1. Mais je vous assure que c'est vraiment difficile. Quand il est question qu'il part le matin à l'école, vraiment, il se met à pleurer trop fort. On dirait que c'est la mort qui l'attend là-bas, comme ça, à l'école. Et donc, on a essayé comme ça avec lui, mais c'est pas facile. Et arrivé à un moment donné, la maman est vraiment découragée. Elle a décidé même qu'on laisse l'enfant à la maison.
Oui.
Et nous, on s'est opposé. On a dit que c'est pas à cause... de sa manière qu'il pleure trop, qu'on va l'abandonner, on va le laisser à la maison. Mais Dieu merci, grâce au savoir-faire de sa maîtresse, l'enfant est arrivé à s'adapter. Donc petit à petit, il commence à prendre le goût de l'école. Et très tôt le matin, quand il s'agit de qu'il se réveille maintenant, lui-même, là, il vient nous réveiller qu'il veut déjà aller à l'école.
Oui, donc aujourd'hui, votre petit frère ne pleure plus du tout pour aller à l'école.
Oui, aujourd'hui, il est très content. Et quand il revient de l'école, il commence à réciter les récitations. Il commence à répéter les lectures qu'ils ont apprises, ce qu'il a mémorisé. Oh. Il commence à nous raconter.
Donc, il est fier.
Donc, il a pris du goût.
Oui, bon, c'est formidable. Mais alors, qu'a fait son enseignante ?
Allô ?
Oui, qu'a fait la maîtresse ? Vous nous parlez du savoir-faire de sa maîtresse.
Oui, sa maîtresse, quand on arrive avec, parce que chaque matin, c'est moi qui l'accompagne à la maison, c'est moi qui l'accompagne à l'école. Quand on arrive, sa maîtresse, elle est là avec les bonbons, les biscuits, des beignes, des gâteaux, quoi. Elle essaie de la donner. Et quand il commence à goûter ça, bon, petit à petit, il aime quoi. Il veut être à l'école très tôt le matin pour que sa maîtresse la donne des biscuits, des trucs comme ça.
Oui, bah dites donc, heureusement que tous les élèves font pas la même chose, hein, parce que sinon, effectivement, il y aurait un petit problème de trésorerie à l'école. Comment découvrir l'école avec plaisir, avec du sucre ? Merci, Osana, de nous avoir appelé. On voit bien quand même que pour les parents, quand on a un enfant, Leila Benoît, qui se retrouve dans un refus d'aller à l'école. Alors, heureusement que ça s'arrange. Souvent, dans les témoignages, on le voit, ça a été des occasions de souffrance, de peur, et puis au fil des mois, ça s'arrange. Mais on a des parents qui, malgré les cajoleries, les négociations, les chantages, les menaces, les levées de force, les retour à la douceur, rien n'y fait. Et il y a une forme de sidération de la famille, non ?
Tout à fait. À un moment donné, les parents sont dépassés, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que les méthodes habituelles ne fonctionnent pas. Et là, on voit notamment pour la maman que parfois être seule avec cette situation à gérer, c'est trop compliqué. Ils ont essayé tout seuls de changer, d'être autoritaire, d'être sympathique. Finalement, ça marche pas. Et c'est là où on voit qu'on a besoin de beaucoup d'adultes, en fait, qui s'accordent, qui trouvent un consensus pour aider l'enfant ensemble. Et là, on voit que la maîtresse, elle travaille avec la maman. C'est-à-dire que toutes les deux travaillent à apprivoiser l'enfant pour que, petit à petit, il se sente à l'aise.
Est-ce qu'il faut parfois traîner un enfant qui refuse d'aller à l'école ?
Alors, certains parents le font. Parfois, on a aussi des adolescents qui ont une phobie scolaire et on se rend compte que quand ils étaient plus petits, ils avaient très peur d'aller à l'école et ils avaient quand même été traînés de force en se disant « bon bah voilà, on va le mettre et puis comme ça, il va s'habituer ». Et ça, malgré tout, ça peut ressortir quand même plusieurs années après puisque c'est une rencontre avec l'école qui est particulièrement violente. Donc, toute la question, c'est comment est-ce qu'on s'adapte du côté de l'école, du côté des parents, surtout pour dialoguer ensemble, se mettre d'accord et réussir, même si ça prend plus de temps pour certains que pour d'autres, à faire en sorte que ça se passe bien.
Est-ce qu'il faut envisager de changer l'enfant d'établissement scolaire ?
Parfois, effectivement, il faut aller regarder comment ça fonctionne dans l'établissement scolaire. Pour les grands ados, ils peuvent le dire. Parfois, si l'ambiance dans la classe est difficile, si ça se passe mal à l'école, c'est des choses qui fonctionnent parfois très bien. À l'inverse, quand on change d'établissement scolaire pour un déménagement que ce n'était pas prévu, des fois ça peut aussi déclencher des phobies scolaires parce qu'on a perdu ses amis. Voilà, donc il faut surtout poser la question en fait, pour s'adapter au mieux.
Vous diriez, Lélia Benoît, que l'école, dans le fond, a une responsabilité dans ce rejet de l'école, dans ce refus d'aller en classe.
Alors, je ne pense pas qu'il faille poser l'école en bouc émissaire de la phobie scolaire parce qu'on voit que c'est une diversité très importante de causes. Néanmoins, elle doit, à l'heure actuelle, être un partenaire pour le retour en classe. Et on voit que quand ça se passe comme ça, comme pour Amandine tout à l'heure qui nous disait « son école est géniale, il s'adapte », comme pour...
Enfin, elle est géniale, mais elle raconte aussi dans le témoignage qu'elle a des profs qui lui disent qu'elle va devenir SDF si elle ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard. Donc oui,
alors,
c'est,
tout à fait,
c'est très paradoxal.
C'est la question des individus, c'est-à-dire il y a des profs qui sont différents à l'école et de la responsabilité de l'école en tant qu'institution. Et on voit beaucoup dans les questions par rapport à ça que certains enseignants sont très sensibilisés par rapport à ça, d'autres pas du tout. Je pense que la difficulté vient de l'hétérogénéité à l'heure actuelle. On ne sait pas vraiment sur qui on va tomber. Certains sont bienveillants, d'autres vous mettent la pression. Et c'est vrai qu'en tout cas, une sensibilisation des différents professionnels à l'école au fait que certains enfants ont besoin qu'on prenne un peu de temps, ça peut être bien. C'est comme, voilà.
Est-ce qu'il existe des systèmes éducatifs, des établissements scolaires qui sont plus anxiogènes que d'autres ? Si on prend le système éducatif français, vous évoquiez le Japon aussi.
Tout à fait. Oui, alors c'est difficile là encore d'avoir des chiffres par rapport à ça ou des preuves formelles, mais effectivement, on sait que les systèmes qui sont très élitistes, qui mettent beaucoup de pression...
Sélectifs,
tout à fait, augmentent la pression des élèves. On a certains enseignants, comme celui d'Amandine, qui se disent qu'il faut rajouter la pression aux élèves parce que peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que la réussite scolaire est un enjeu, alors que les jeunes à l'heure actuelle savent très bien, mais dès tout petit, qu'il faut qu'ils aient un diplôme pour s'en sortir dans la vie, que le chômage c'est un vrai risque. Donc on vient surajouter une pression à des élèves qui se la mettent déjà beaucoup.
Ouais, mais est-ce que par exemple dans les pays anglo-saxons, où il y a davantage de pédagogie autour de la confiance, il y a plus d'activités artistiques, on peut exprimer sa sensibilité et donc montrer des facettes de sa personnalité qu'on ne peut pas montrer dans un système très, très scolaire, est-ce que du coup il y a moins de rejet de l'école ?
Alors, encore une fois, les chiffres sont difficiles à avoir, mais... On pense en tout cas que le fait de valoriser des activités artistiques, des activités sportives, de pouvoir faire d'autres choses, peut permettre aux enfants de s'épanouir différemment. En tout cas, à l'école, en France comme au Japon, c'est des pays
c'est
qui
pas
ont été
vraiment
classés.
Prévu pour. Oui.
Voilà, dans les classements OCDE, ça fait partie mondial en tout cas, ça fait partie des pays qui sont les plus anxiogènes pour les élèves. Oui.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez aussi poser vos questions, poster vos messages sur WhatsApp.
Bonjour, moi c'est Khalifa. J'ai un petit garçon de 4 ans qui est au maternel. Mais déjà, imaginez-vous que le soir, quand il revient, il me demande demain, il n'y a pas école ou bien. Il veut que je lui dise oui, il n'y a pas école pour être content. Par exemple, des fois, il vient, il me dit, la maîtresse a dit de ne pas venir à l'école. Alors que c'est pas ça. Est-ce que je dois m'inquiéter ?
Ah oui, ben il est malin ce gamin. Hein. La maîtresse a dit de ne pas venir à l'école demain. C'est grève. C'est à peu près ça. Il y a des enfants qui, dès l'âge de 4 ans, sont prêts à inventer des choses pour ne pas aller à l'école. Faut-il s'en inquiéter? Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Alors, tous les enfants ont le droit d'essayer un jour de mentir, hein, ne serait-ce que pour voir comment les adultes réagissent. Il y a beaucoup d'enfants qui ont essayé, par exemple, de faire chauffer le thermomètre sur le radiateur avant de pour faire semblant d'être
malade.
J'ai
de la fièvre, oui.
J'ai de la fièvre aujourd'hui, voilà. Bon, là, il faut évidemment aller voir la maîtresse. Je pense qu'il faut aller lui parler et puis faire en sorte de savoir où est la vérité. Et puis bon, s'il a 4 ans qu'il essaye de mentir, bah évidemment, il sera réprimandé, quoi.
Mais en principe, l'école à 4 ans ne doit pas être anxiogène. C'est un lieu où on se fait des amis, on fait des jeux, on a des jouets et du matériel que peut-être on n'a pas à la maison.
Alors, c'est dans le meilleur des cas, l'école est encore plus drôle que la maison. On a des amis, on a des jeux, etc. Après, même dans une école où les choses fonctionnent bien, il est possible d'avoir besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter. Quand on a changé d'école, qu'on vient de quitter la maison, on peut se dire, bon, bah, je ne me suis pas encore fait des copains. Et il faut accompagner un petit peu l'enfant dans cette phase de se dire, bah, peut-être que ce ne sera pas rose tout de suite, mais que ça va le devenir.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, si vous souhaitez questionner Lélia Benoît, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent, qui écrit actuellement une thèse sur la phobie scolaire. 33 1 84 22 71 71.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues. Sans cesse là-bas. À présent l'orage dort sous la grève. Tout corps et tôt, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas. Reposé, viens là. Le soleil perce l'oiseau. De ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau gris. De ses raides et doux rayons comme des aiguilles, une poupée vautou. Arrive-t-il d'un pays lointain, se vola-t-il au regard éteint. Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours, jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus, du pauvre oiseau.
C'est Feu Chatterton, l'oiseau, lui, il est libre de ne pas aller à l'école. Est-ce qu'il y a des pays, Lélia Benoît, qui savent prendre davantage en charge le rejet de l'école, sans dramatiser, sans médicaliser, mais qui savent trouver des réponses pour les familles, pour les enfants?
Alors, un des pays qui nous inspire, c'est vraiment les pays scandinaves, hein, qui ont fait évoluer leur pédagogie depuis les dernières décennies. Et ils ont beaucoup plus des petits ateliers à l'école avec des activités qui sont manuelles, qui sont pratiques, créatives. On fait des projets. On fait des projets en petits groupes. Donc, on apprend à travailler ensemble. Et on apprend à faire un projet où l'enfant va avoir un résultat. C'est-à-dire, soit une plante va pousser, ou alors sa petite machine va fonctionner. En tout cas, on arrive à voir à quoi ça sert. Et donc ça, c'est très important pour les enfants de voir quel est le sens du travail qu'ils font à l'école. Parfois, remplir juste des copies, c'est difficile. Et ça permet aussi de valoriser le travail avec les autres, en collaboration. Et ça, c'est quelque chose où, à l'école en France en tout cas, c'est difficile. Tout le monde est focalisé uniquement sur sa note. Et on a beaucoup de témoignages d'enseignants là qui nous disent « Avant de développer une phobie scolaire, bah, cet élève, ce garçon, cette fille, avait du mal à être avec les autres. Non pas que les autres se moquent de lui, etc. Mais simplement parce qu'il était tellement concentré sur ses cours, sur ses notes, sur réussir, sur lever la main avant les autres, qu'au final, bah, les autres étaient un petit peu agacés. Il n'était pas très sympathique. Donc, il ne faut pas oublier que l'école, c'est quand même un lieu où on vit vit ensemble. Et la pédagogie, mais du coup la pression scolaire, aide ou rend difficile le fait de passer un moment agréable ensemble pendant la journée.
Oui, et quand on a des adolescents qui passent de plus en plus de temps avec leurs écrans, ça n'aide pas aussi à être avec les autres, à s'intéresser aux autres et tout simplement à décrocher de son propre problème. Lélia Benoît, merci à vous. Vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Je sais que vous menez à l'heure actuelle une campagne participative pour être aidé dans les recherches des spécialistes de ce problème de la phobie scolaire grâce à l'association phobiescolaire.org.
Tout à fait. Alors, on fait une recherche au sein de l'INSERM et on s'est associé avec l'association de parents phobie scolaire parce qu'on voulait monter une recherche qui ait du sens pour les parents et qui nous permette de mieux comprendre le parcours d'accès aux soins, hein, le parcours scolaire de ces enfants, de ces familles. Donc, on est en train de construire un questionnaire ensemble avec des questions qui leur parlent et puis pour avoir plus d'informations et mieux les connaître.
Merci à vous d'être passé par le studio de 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, comme chaque vendredi.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
La chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre et vous dirigez la revue transculturelle L'Autre, à retrouver d'ailleurs sur internet www.revuelautre.com. Depuis plusieurs semaines, on parle de ces enfants qui circulent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Et aujourd'hui, comment grandissent les enfants adoptés? Alors, le mot adoption, quand on fait nous des émissions sur ce sujet-là, pour nos auditeurs qui sont sur le continent subsaharien, c'est pas un mot qui a forcément beaucoup de sens, puisque les enfants sont davantage confiés qu'adoptés. C'était le sujet de votre chronique il y a quelques semaines. Et puis, dans les pays développés, l'adoption se tarit, l'adoption internationale et même l'adoption à l'intérieur même d'un pays, encore que dans les pays émergents, elle est en train de se développer. La question aujourd'hui, c'est comment grandissent les enfants adoptés, mais quand ils sont adoptés dans le même pays où ils sont nés. Et donc, ils ont la même apparence physique, par exemple.
Exactement. Alors oui, vous avez raison, Emmanuel. Nous, on parle d'adoption ici en Europe, alors que dans plein d'autres endroits, on parle d'enfants confiés. Et au fond, c'est la même idée. Sauf que dans l'adoption, il y a en plus quelque chose de juridique. Hein. On va devenir juridiquement les parents de cet enfant. Et la question de l'adoption est une forme de parentalité et aussi une forme de circulation des enfants. Je pense par exemple à Sam, adopté à l'âge de 1 an par une famille française avec laquelle il vit très bien, tranquillement.
Donc il est né en France, lui
aussi. Il est né en France. Il a été adopté vers 9 mois après avoir été laissé dans une institution pendant 9 mois, le temps qu'il soit adoptable. Hein. Il grandit seul, sans frère ni sœur. Ses parents sont un couple de professeurs très heureux et qui sont très conscients que cet enfant les a fait parents. Donc, c'est très agréable de les voir comme ça, à la fois être parent et être enfant. Enfin, ça marche très bien. Bien sûr, de temps en temps, quand il était enfant, Sam, il se demandait pourquoi ses parents l'avaient abandonné. Parce qu'on parle d'adoption, mais avant l'adoption, il y a forcément un abandon. Donc, ça va ensemble. Et puis un jour, en début d'adolescence, il va demander solennellement à ses parents d'adoption. Mais qu'est-ce que vous savez? Pourquoi on m'a abandonné?
Même s'il savait depuis son plus jeune âge qu'il avait été adopté. Alors, avait besoin d'en savoir plus.
C'est ça, il savait qu'il avait été adopté. Ses parents, je pense, lui avaient déjà dit en réalité l'histoire de l'adoption. Mais à un moment donné, les enfants adoptés, c'est comme si... ils avaient besoin vraiment de s'approprier ça, de dire c'est moi qui ai cherché et voilà ce que j'ai trouvé. Alors ses parents d'adoption lui ont dit, ce que l'on sait c'est que ta mère a accouché sous X et c'est pour ça que nous avons pu nous t'adopter quelques mois plus tard.
Donc sans laisser son nom, sans laisser de traces pour qu'elle puisse être retrouvée.
Oui, alors on peut retrouver quelques traces par le conseil de l'adoption, le conseil des origines, mais vraiment un accouchement sous X, c'est quasiment anonyme. Et donc, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que Sam, qui est un garçon qui va bien, il a commencé à se raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il a imaginé que cet abandon sous X de sa mère biologique était une sorte de geste de tendresse, d'amour, quelque chose comme ça. Elle ne pouvait pas Elle a voulu des bonnes choses pour moi. Alors voilà, je suis dans une famille qui m'a adoptée. Et ça, c'est très important que les enfants se racontent quelque chose qui a un sens pour eux et qui ne soit pas caricatural.
De nombreux psys disent que c'est plus compliqué pour les enfants adoptés. Est-ce que pour vous, ils grandissent malgré tout comme les autres ?
Ils grandissent bien, ils grandissent comme les autres. Ils vont, la plupart du temps, ils vont bien. Mais je pense qu'il y a une condition et que cette condition, elle appartient aux adultes. C'est ce que m'ont appris, moi, les enfants, parce que j'ai une consultation adoption avec eux. C'est qu'il faut qu'on respecte le fait que c'est des enfants adoptés. C'est-à-dire qu'ils ont deux histoires, ils ont deux filiations.
Ça doit être très clair dans la tête de
l'enfant.
Ça
doit être très clair. Et des parents. Et des parents aussi, de tous. Et j'ai deux histoires et je suis passée de l'une à l'autre. Et on m'a abandonnée, mais on m'a abandonnée pas parce que j'étais mauvaise, parce que c'est ça le danger. C'est qu'en fait, les enfants se disent, s'ils n'arrivent pas à se raconter une histoire, une bonne histoire, ils vont se dire, au fond, on m'a abandonnée parce que je ne suis pas quelqu'un d'aimable, je suis quelqu'un de pas bien. Ça, ça détruit, ça blesse.
Donc avec deux histoires, on n'est pas plus fragile que les autres, a priori.
Non, pas du tout, et les études le montrent. On peut être fort, créatif, on peut... justement être des vrais enfants qui ont voyagé et qui sont capables de créer des mondes.
Merci Marie-Rose Moreau, vous avez publié Nos enfants demain pour une société multiculturelle chez Odile Jacob. Et la semaine prochaine, on parlera des enfants adoptés qui sont nés dans un autre pays que celui où ils sont adoptés. Et là, c'est un petit peu différent d'ailleurs, notamment parce que parfois on a une apparence physique aussi très différente par rapport à ses parents adoptifs. À très bientôt Marie-Rose.
Au revoir Emmanuel.
Lélia Benoît, qui est spécialiste vous aussi de l'adolescent et de l'enfant, est-ce qu'on parlait des phobies scolaires pendant toute cette émission? Est-ce que les enfants adoptés ont davantage de difficultés scolaires à trouver leur place à l'école?
Alors non, pas particulièrement. Un peu comme disait Marie-Rose Moreau, hein, c'est des enfants qui grandissent bien et on est plutôt rassurés à chaque fois qu'on regarde. Non, c'est la question à l'école, c'est là encore de se trouver des amis, de trouver sa place. Ça peut être une question que les enfants adoptés se posent, tout comme avec leurs parents biologiques, ils ont besoin de reconstruire une histoire, comme disait Marie-Rose. Donc, à la fois pour savoir que eux ont été un bon enfant, qu'ils n'ont pas été abandonnés parce qu'ils étaient mauvais, mais aussi que leurs parents biologiques n'étaient pas des mauvais parents. Hein. C'est ça qu'elle veut dire aussi, c'est que ils n'ont pas été si vilains de les abandonner. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Et ça permet de garder la place, de savoir que les deux peuvent coexister. À l'école, c'est un petit peu pareil, savoir qu'ils vont pouvoir trouver leur place. Parfois, c'est des enfants qui peuvent être un petit peu plus sensibles au changement de personne. Donc à cette question de l'abandon encore, quand on change de classe, quand on change d'amis,
de professeur,
est-ce qu'on va être bien accepté? Est-ce qu'on a notre place finalement? Est-ce qu'on va être adopté par l'école?
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, il faut savoir qu'il y aura peut-être cette petite sensibilité, mais dès lors que les adultes justement sont attentifs à ça et savent que oui, c'est un enfant qui a toute sa place à l'école d'abord, ensuite c'est un enfant qui a une histoire peut-être un peu différente de celle des autres et qu'elle a sa place aussi.
Et bien merci à vous Lélia Benoît, merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique Magazine. Nous retrouvez aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, ne manquez pas notre émission. Vous allez découvrir une incroyable aventure musicale au Venezuela. Des centaines de milliers d'enfants grandis dans des quartiers pauvres, souvent des bidonvilles d'un des pays les plus violents au monde, et qui découvrent la musique classique d'orchestre, très jeune, grâce au Sistema. C'est un réseau d'écoles qui est né il y a plus de 40 ans, bien avant l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, et qui propose l'apprentissage de la musique comme un droit social. Au-delà du projet politique, le Sistema a essaimé maintenant dans le monde entier. Il a donné naissance à un orchestre international, le Bolivar, et surtout à un jeune chef d'orchestre que les plus grandes salles de concert s'arrachent, de Milan à Los Angeles. Vous découvrirez toute l'histoire et ses limites aussi dans un Venezuela en crise. À lundi pour 7 milliards de voisins sur RFI.